Europe 1. 15h, 16h sur Europe 1.
Il est difficile de savoir ce qu'on est.
À cette hauteur, il est trop seul pour pouvoir se confier.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Tu me parles le cœur, hein? Oh, alors César. À César, tu me parles le cœur.
Oh, voilà dans le mystère percé. C'est d'amour qu'il s'agit.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h et pendant une heure. Je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est déroulée, ou des événements marquants, et que j'ai choisi de vous raconter. Oui, cet après-midi, à l'occasion des 50 ans de sa disparition, je vous raconte un président de la République, ancien Premier ministre du général de Gaulle, qui a laissé son nom à un centre de culture et d'art à Paris. Et ce n'est pas un hasard, vous allez voir. Ou la véritable histoire de Georges Pompidou, le président amateur d'art contemporain. Pourquoi Georges Pompidou a-t-il souhaité l'ouverture d'un grand centre d'art contemporain? Entendait-il étendre l'accès à la culture? Que retenir des années Pompidou? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir un historien, membre de l'Institut. Bonjour, Éric Roussel.
Bonjour.
Éric Roussel, la 5e République compte à ce jour 8 présidents. A-t-on connu président plus littéraire, plus passionné d'art que Georges Pompidou?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, il a été celui... Enfin, il y a eu François Mitterrand. François Mitterrand était un homme qui était extrêmement cultivé, mais il était plus exclusivement tourné vers la littérature. La peinture, la sculpture, en fait, tout le reste, l'activité artistique, je pense, l'intéressait moins. Enfin, il s'est attaché son nom aussi à des grands travaux. Mais on peut dire, oui, que Pompidou a été, je crois, le plus...
Qui pouvait citer les poètes de mémoire dans n'importe quelle conférence de presse, c'était...
C'est un homme qui fait un peu la jonction, si vous voulez, avec la Troisième République. C'est-à-dire, il y avait cette culture encore qui était très littéraire, qui existait et qui malheureusement s'est un peu évanouie aujourd'hui.
Et un homme aussi audacieux dans ses goûts.
Oui, alors c'est un homme qui est paradoxal, qui est plein de contradictions, il faut le prendre comme il est. C'est un homme qui est, par certains côtés, assez conservateur, qui va même le devenir peut-être de plus en plus. Et qui, à côté de ça, en matière artistique, en matière aussi littéraire, a des goûts très, très modernes et voire audacieux et qui ont pu le placer en porte-à-faux par rapport à ceux qu'il soutenait. Et c'est ça qui est. C'est un homme très, très singulier.
Votre biographie de Georges Pompidou est rééditée dans la collection Tempus des éditions Perrin à l'occasion des 50 ans de sa disparition. On va continuer à en parler ensemble, cher Éric Roussel, juste après mon récit.
Europe 1,
15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes le 31 janvier 1977 à Paris, entre le quartier des Halles et le Marais. Sur l'immense parvis qui fait désormais face à un étonnant monument tout juste achevé, qui se veut bien plus qu'un musée, ce sont quelques 5000 invités qui défilent tout au long de cette soirée d'hiver pour pénétrer dans ce nouveau centre d'art et de culture. Parmi eux, on compte de nombreuses personnalités du monde artistique, des officiels, des politiques, les présidents du Congo, du Sénégal, de la République de Côte d'Ivoire, les grands-ducs de Luxembourg, la princesse de Monaco, Jacques Chirac, Premier ministre et bientôt maire de Paris. Tous ont répondu présents à l'invitation de Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République française, qui entame ainsi son discours. Le président de la République qui inaugurera aujourd'hui ce centre n'est pas celui qui avait qualité pour le faire, puisque c'est le président Pompidou qui l'a voulu, décidé et choisi. Si l'ancienne première dame est bien présente, Georges Pompidou, lui, est le grand absent de l'inauguration de celui qu'on nomme alors le centre Beaubourg, un centre qui porte aussi son nom, Pompidou. L'inauguration a lieu près de 3 ans après sa mort, le 2 avril 1974, et 8 ans après l'annonce de la création du centre, alors qu'il venait tout juste d'arriver au pouvoir. L'ancien président n'est donc pas là pour lire ou entendre les réactions, mitigées, il faut bien l'avouer, que suscite cette audacieuse structure architecturale au cœur de Paris. Mais par-delà la tombe, il peut les deviner. Car oui, de son vivant déjà, le projet était très contesté. Trop monumental et surtout trop coûteux, avec les 990 millions de francs investis. Son architecture, résultat d'un concours remporté par le trio italo-britannique Renzo Piano, Gianfranco Franchini et Richard Rogers, laissait aussi les Parisiens perplexes. avec ses structures apparentes en acier, ses parois de verre, ses escalators accrochés au bâtiment en une lourde chenille, le centre d'art était pour beaucoup trop industriel, trop grand et en prime. Il fallait prendre la place d'un parking bien utile pour aller faire ses courses dans le quartier. Valéry Giscard d'Estaing lui-même aurait menacé ce projet monumental à la mort du président Pompidou. Et c'est Jacques Chirac, alors Premier ministre et grand défenseur de l'héritage de Pompidou, qui sauve les meubles, ou plutôt le monument. Et quel monument ! Haut de 52 mètres, long de 166 mètres, il écrase littéralement le quartier, ancien foyer de tuberculose insalubre, en partie détruit dans les années 30. Alors oui, le Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou ne met pas tout le monde d'accord. « Dieu que c'est laid !» s'exclame l'écrivain René Barjavel. Jean Baudrillard, lui, traite le lieu d'objet monstrueux. Mais cette monumentale provocation posthume s'inscrit dans la droite lignée des goûts et du vécu de Georges Pompidou. Un président conservateur politiquement, mais tourné vers l'avenir dans ses penchants artistiques, au nez et à la barbe de ses détracteurs. Un président que je vous raconte cet après-midi. Les débuts politiques de Georges Pompidou sont des plus inattendus. En effet, ce fils d'enseignant milite à la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, dans sa jeunesse. Et il continue à œuvrer du côté du socialisme durant ses études. Au début des années 30, alors qu'il est en classe préparatoire à Paris, au lycée Louis-le-Grand, le jeune Georges milite dans une ligue d'action universitaire socialiste, s'opposant à la droite nationaliste et royaliste, et s'inscrit même à une société secrète trotskiste. Tout un programme. Admis à l'école normale supérieure, il poursuit ensuite, assez naturellement, une carrière d'enseignant, mais envisage également d'écrire de la fiction. Une première immersion du côté artistique qui tourne court car la libération vient sceller son destin en le rapprochant de Gaulle. Et le réseautage commence tout. Durant ses études, Georges Pompidou a connu du monde et du beau. On peut notamment citer le futur ministre et président Léopold Senghor, avec qui il noue une grande amitié, ou encore l'homme de lettres et homme politique Aimé Césaire. À Normal Sup, comme on dit, il rencontre aussi le gaulliste René Brouillet. Et c'est lui qui l'introduit auprès du général et lui obtient un poste de chargé de mission pour l'éducation nationale. Mettant de côté ses premières sensibilités politiques orientées vers le socialisme, Georges Pompidou se rapproche humainement de Gaulle et gagne sa confiance. Quand le gouvernement provisoire prend fin en 1946, Pompidou continue à œuvrer en politique jusqu'à ce que son ami René Fillon, encore un normalien, le présente à Guy de Rothschild. Ce qui permet au futur président de déjà devenir directeur général à la banque. Il se passionne pour la finance, mais profite également d'une certaine aisance pour cultiver un autre penchant. Depuis ses 17 ans, âge auquel il a acheté La ferme sans tête, un roman collage du dadaïste Max Ernst, Pompidou est passionné d'art. Mais à l'art classique des anciens ou des académiciens, il lui préfère l'art contemporain, celui que les gens de bon goût trouvent affreux et qui suscite de vives critiques. Et son intérêt pour l'art n'est pas financier. Il achète par goût, sans but spéculatif. En somme, il n'investit pas, il collectionne. Les brillants honoraires que lui paye Rothschild lui permettent de satisfaire son goût et son appétit pour l'art contemporain. Et sa galerie personnelle compte bien vite plus d'une centaine d'œuvres. Quand Charles de Gaulle revient en politique en 1958, Georges Pompidou le suit et devient son directeur de cabinet. Pour mettre fin à la guerre d'Algérie, il participe à préparer les accords d'Évian, mettant au service de Gaulle sa connaissance financière des enjeux liés au Sahara français, car il administre pour Rothschild plusieurs sociétés implantées là-bas. On lui tend bien une perche pour un poste de ministre des Finances, mais Pompidou sera Premier ministre ou rien. C'est donc Valéry Giscard d'Estaing qui occupe la fonction. Pompidou, lui, n'entre réellement au gouvernement qu'en avril 1962, comme Premier ministre donc, succédant à Michel Debré. Le futur président a obtenu ce qu'il voulait, mais il reçoit cette tâche en ayant conscience de son ampleur, surtout qu'il est le premier non-parlementaire à occuper le poste. S'il a joué les éminences grises, personne ne le connaît vraiment, personne ne l'attend. Il n'est rattaché à aucune famille politique et il est perçu comme un néophyte. De plus, Pompidou travaille sous un géant militaire, une légende. N'est-il qu'un sbire de Gaulle ? Le président attend surtout de lui qu'il arrondisse les angles. En effet, Georges Pompidou incarne un homme politique plus proche du peuple, peut-être parce que ses grands-parents étaient des paysans, et il attire la sympathie populaire. En outre, avec sa silhouette ronde et son nom qui a l'air de se moquer du monde, comme le dit De Gaulle, il se construit tout de suite un personnage débonnaire. Débonnaire, certes, mais loin d'être inoffensif. L'écrivain François Mauriac le surnomme Rabinac Grobis, le chat ronronnant mais impitoyable des fables de La Fontaine. À Matignon, où il s'installe, Georges Pompidou prend possession des lieux en exposant un tableau du peintre Soulages, abstrait, noir et gris, de 1957, qu'il accroche derrière son bureau et qui étonne ses visiteurs haut placés. Ils sont loin d'imaginer ce qu'il fera de l'Élysée quelques années plus tard. En attendant, la Ve République se construit et même si sa position est ambivalente, Georges Pompidou soutient Charles de Gaulle lorsqu'il modifie la Constitution pour que le président de la République soit élu au suffrage universel direct. Pour faire passer cette réforme, le général passe au-dessus des parlementaires en procédant par référendum. Une décision qui fait polémique. Pompidou présente sa démission suite à la motion de censure votée à l'Assemblée qui exprime ainsi son mécontentement. De Gaulle la refuse, c'est l'Assemblée qui est dissoute. Le Premier ministre lui reste. Et les deux hommes gouvernent ensemble contre vents et marées, et cela pendant 6 ans et 4 gouvernements. Au gouvernement, les futures têtes d'affiche surgissent déjà. On a vu Giscard d'Estaing aux finances, et lors de débats liés à l'élection du président au suffrage universel, Pompidou s'oppose aussi à un futur successeur, François Mitterrand, alors député. Enfin, c'est dans le 4e gouvernement, lors du 2e mandat de De Gaulle, qu'apparaît le jeune loup, Jacques Chirac, qui prend les fonctions de secrétaire d'État à l'emploi. Le futur est là, et le passé va bientôt quitter la scène et tirer sa révérence. C'est d'abord Georges Pompidou lui-même qui s'en va, pour mieux revenir. Bien qu'il dirige le gouvernement pendant les 30 Glorieuses, le Premier ministre de De Gaulle fait face à bien des bouleversements et est souvent critiqué, notamment pour son conservatisme social. Mais ce sont les événements de mai 68 et ce qui en découle qui marque la fin de ses fonctions. Après le résultat des législatives, le 1er juillet 1968, Georges Pompidou donne sa démission à De Gaulle. Il est d'usage que le Premier ministre présente une démission de courtoisie au lendemain d'élection, et jusque-là, De Gaulle avait toujours refusé. Mais le chaos de mai 68, ainsi que des désaccords de plus en plus nombreux, finissent par sonner le glas de leur collaboration. Pompidou quitte Matignon le 10 juillet. Un an plus tard, le général lance un autre référendum. Il vise à la fois à présenter une restructuration de l'État et du gouvernement, mais aussi à déterminer s'il a encore sa place à la présidence. La réponse est sans appel, c'est un non. Et De Gaulle démissionne à son tour. Le capitaine du navire est parti et son second reprend le gouvernail. Georges Pompidou avait déjà annoncé sa volonté de se présenter aux élections présidentielles et il est élu le 15 juin 1969. S'il est gaulliste et a travaillé sous la direction du général, l'heure du changement a sonné. Sous sa présidence, le pays se modernise et tout s'accélère. Pompidou encourage la création industrielle, lance le projet du train à grande vitesse, le TGV, investit dans l'automobile, l'aéronautique, l'aérospatiale. Et l'art, oui, car Georges Pompidou n'a pas oublié ses premières amours, bien au contraire. Et il est soutenu dans sa passion par la première dame, Claude Pompidou. Cette dernière incarne la femme moderne, bien loin des faits du logis à la Yvonne de Gaulle. Celle que son mari surnomme Bibiche n'a rien d'une herbivore docile. Elle est grande et à la pointe de la mode. Amie de la couturière Coco Chanel, elle voit les plus grands créateurs se battre pour ses faveurs, devenant ainsi une véritable égérie. Elle porte du Courrèges, du Cardin, du Dior. Aux États-Unis, elle éblouit par ses toilettes impeccables, incarnant à merveille l'élégance parisienne. Dans la mode, Claude Pompidou voit l'avant-garde, car c'est aussi une immense passionnée d'art contemporain. Le couple présidentiel soutient d'ailleurs des artistes de leur temps. « Je veux faire entrer la modernité à l'Élysée », décrète Georges Pompidou. Et il y parvient rapidement. C'est un véritable bouleversement pour ce vieux palais du XVIIIe siècle qui n'a pas été secoué ainsi depuis des lustres. Les murs se couvrent de tableaux des plus grands peintres de l'avant-garde, Kandinsky soulage Giacometti. Tous trouvent leur place à l'Élysée et viennent bouleverser les codes au parfum de naphtaline. Adieu bois verni du 18e, nous sommes à l'ère du plastique. C'est au designer Pierre Paulin que Claude et Georges Pompidou passent commande d'un tout nouveau mobilier pour l'Élysée en 1972. L'artiste aménage alors le salon bibliothèque, le fumoir et la salle à manger. Le résultat est en totale opposition avec le cadre traditionnel du palais présidentiel. Seule installation à avoir subsisté, le salon Paulin témoigne des goûts pointus et terriblement modernes du couple. La table et les chaises sont recouvertes d'une projection plastique qui fut utilisée pour les cabines des vaisseaux Apollo. Elle forme le poste de pilotage d'un vaisseau spatial fantaisiste sous un lustre immense composé de 9000 tiges et billes de verre qui s'étendent en des ondulations sinueuses rappelant les films de science-fiction de l'époque. Le plasticien Yaakov Agam est aussi commissionné par le couple présidentiel et couvre l'antichambre de leurs appartements privés de motifs abstraits de toutes les couleurs. Cette antichambre, par laquelle devaient passer tous les hôtes de l'Élysée avant de rencontrer le couple présidentiel, est aujourd'hui visible au centre Georges Pompidou. Bien à sa place, au milieu des galeries blanches où sont exposées les propositions les plus audacieuses de l'art contemporain, elle a pourtant bien été conçue pour le palais présidentiel. À ses intérieurs chamarrés aux mouvements hypnotiques, ses tableaux abstraits et ses meubles tout droit sortis d'une soucoupe volante, Claude et Georges Pompidou ont fait à l'époque preuve d'une audace folle et inégalée à ce jour. Mais au-delà de contemporanéiser l'Élysée, voilà plusieurs mois que Pompidou planche sur l'un de ses grands dossiers. À peine a-t-il pris ses fonctions que le président de la République a annoncé le projet qui deviendra son plus grand héritage, le futur Centre national d'art et de culture. La création de ce centre répond à plusieurs préoccupations du président. Tout d'abord, sa volonté de toujours, pour reprendre ses mots, faire entrer la modernité dans Paris. En effet, la capitale n'a pas vu de construction de cette ampleur depuis une quarantaine d'années. Il s'agit aussi pour lui de le rendre accessible au public, car en amoureux de l'art contemporain, il tient à le faire découvrir à ses concitoyens. Le président Pompidou veut également rivaliser avec les Américains sur le terrain de plus en plus disputé de l'art. En effet, New York s'impose peu à peu comme la capitale de l'art contemporain, et Paris prend du retard. Avec une institution de cette ampleur, la métropole française serait remise à niveau. Pour le lieu, le président choisit le plateau de Beaubourg au cœur de Paris. Mais un autre projet y était déjà rattaché, celui d'une immense bibliothèque publique. Qu'à cela ne tienne, les deux projets fusionnent. Le musée sera aussi une bibliothèque, mais aussi un centre de création industrielle et un centre de création musicale. Car le projet de Pompidou n'est pas de créer un nouveau Louvre. On parle d'art contemporain et donc d'art vivant. Mais cette idée ne remporte pas tous les suffrages, loin de là. Avant même d'avoir les premiers plans, je vous le racontais, on se méfie d'une telle institution qui soulève des débats. L'État doit-il financer l'art contemporain ? Art et éducation font-ils si bon ménage ? Et où trouver tout cet argent ? Un concours d'architecture est lancé dès décembre 1970 pour choisir qui construira l'édifice. Près de 700 projets sont présentés, mais ce sont donc Renzo Piano, Richard Rogers et Gianfranco Franchini qui sont retenus pour leur structure industrielle faite de métal et de verre. Une manière d'offrir l'art à la vue des passants. Mais avant que la construction du centre ne soit achevée, une autre aventure artistique de Pompidou va susciter la méfiance des artistes contemporains de l'époque. En effet, le 16 mai 1972 est inaugurée au Grand Palais l'exposition 60-72, 12 ans d'art contemporain en France. Pour l'occasion est réalisée une peinture par la coopérative des Malassis, fondée par 6 peintres, tous communistes. Intitulée « Le Grand Méchoui » ou « 12 ans d'histoire de France », cette peinture collective monumentale composée de 45 panneaux formant une fresque de 65 mètres de long représente de façon symbolique les événements de cette 5e République troublée. On y distingue des hommes politiques en costume pointer une arme à feu sur l'Arc de Triomphe. L'ancien président de Gaulle y prend la pose face à un cadavre de mouton embroché tandis que la population est broyée sous les rouages d'une machine infernale et ressort sous forme de sac poubelle. Une œuvre véritablement engagée, selon les souhaits de Pompidou lui-même, qui n'est pas un paradoxe près, et qui, tout en voulant contrôler les médias, assure que l'art doit discuter, contester, protester. Pensée comme une vitrine de l'art français, l'exposition est néanmoins mal perçue par des artistes contestataires qui bloquent son entrée en brandissant des panneaux. Il faut dire que bien peu d'artistes sont exposés dans ce qui se veut une synthèse de la production de l'époque. Sur les 300 artistes qui ont été envisagés, 72 seulement ont été retenus. Et aucun critique ayant construit les différents mouvements de la décennie n'est invité à faire partie du comité. Ce sont des technocrates revendiquant une neutralité sereine qui désignent à présent les rares artistes élus et qui commencent à régenter le monde de l'art. Le début d'un art d'État, en somme. L'ouverture des institutions à la création contemporaine, certes, mais à quel prix ? Pour les commissaires d'expo, il s'agirait simplement de faire un constat et non un palmarès, mais ce constat n'a pas la neutralité qu'ils prétendent. Et cette gouvernance étatique sur l'art est mal vécue par les jeunes artistes militants. Pour eux, elle ne représente pas la réalité de la scène artistique. Pour les activistes du FAP, le Front des artistes plasticiens, c'en est trop. Ce qu'ils voient comme un coup de pub cache la difficulté de leurs conditions de vie et l'irrespect avec lequel ils sont traités. Il s'agit aussi de communication au service de l'État et ils refusent d'entrer dans ce jeu. L'Expo 72, des artistes au service du capital, clament leur banderole. La police intervient de façon musclée, dispersant militants, artistes et visiteurs curieux à coups de matraque. L'exposition ferme ses portes. Les malassis retirent leurs toiles définitivement en signe de protestation. Ils les utilisent même comme boucliers face à la police. D'autres artistes retournent leurs toiles ou affublent leur œuvre de fromages odorants. Est-il protestation plus française que celle-là ? J'en doute. Malgré ces oppositions, l'exposition est reprogrammée quelques jours plus tard, au 24 mai. Elle accueille environ 70 000 visiteurs qui, jusqu'au mois de septembre, peuvent y découvrir les œuvres d'Yves Klein, Nikita Saint-Phalle, Claude Viala, Christian Boltanski, Ben et quelques 67 autres artistes, aux noms souvent familiers. En parallèle, la construction du Centre national d'art et de culture se poursuit avant d'être brutalement et temporairement stoppée en 1973, pour des raisons financières. Et au même moment, la santé du président Pompidou se dégrade. Oui, lors de ses entretiens avec des dirigeants étrangers comme Nixon ou Brejnev, ses interlocuteurs sont choqués par son visage gonflé, ainsi que sa démarche affaiblie. C'est que Pompidou se bat en secret contre la maladie de Waldenström, une forme rare de cancer qu'on lui a diagnostiqué peu après son élection à la présidence. Son état inquiète, mais les communiqués de presse minimisent la situation. Ainsi, quand il décède le 2 avril 1974 à 62 ans, il y a 50 ans, jour pour jour, le pays est sous le choc. Mais son œuvre dans le domaine des arts lui survit, et elle dépasse la peinture, la sculpture et le design, et touche d'autres domaines. La littérature d'abord, car l'ancien normalien est l'auteur d'une anthologie de la poésie française. La musique aussi, puisqu'il est à l'origine de la première nomination d'un étranger à l'Opéra de Paris, le Suisse Rolf Liebermann. Une décision contestée, mais qui fait de la capitale un vivier international d'artistes lyriques et de musiciens. Mais également le théâtre, car Georges Pompidou soutient le Festival d'automne pour redonner à Paris une place centrale dans toute la culture. Celui qui déclarait « J'aime l'art contemporain, je veux qu'il y ait une exposition démesurée sur la création française » nous offre à voir de l'art contemporain toute l'année, dans un édifice unique, car le Centre national d'art et de culture est finalement achevé après sa mort. Vaillamment défendu par Jacques Chirac face à Giscard d'Estaing, le Centre Pompidou voit le jour à Paris en 1977, mais aussi ailleurs, car oui, depuis, des antennes ont ouvert à travers le monde. Le nom de Pompidou résonne à Metz, dans un centre ouvert en 2010, à Malaga, en Espagne, depuis 2015, à Shanghai, en Chine, depuis 2019. L'ancien président donnera aussi son nom à des centres d'art avec le canal Centre Pompidou qui doit ouvrir à Bruxelles, en Belgique, mais aussi à Séoul, en Corée, en 2025, ainsi qu'à Al-Ula, en Arabie Saoudite, en 2027-2028. Preuve que le président qui prêchait pour la modernité a été écouté.
Europe 1, historiquement vôtre.
Éric Roussel, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. En 2019, le président Emmanuel Macron évoquait Georges Pompidou en ces termes, une définition française de la modernité. 50 ans après sa mort, Pompidou fait-il aujourd'hui l'unanimité? Et quelle image laisse-t-il dans l'imaginaire collectif?
C'est un président qui a été un peu occulté pendant des années, mais on se rend compte que la trace qu'il a laissée est toujours vivante. J'en veux pour preuve l'accueil qui a été réservé à des livres qu'il conserve, notamment quand j'ai publié avec son fils un recueil d'écrits inédits qui a été publié sous le titre « Lettres, notes et portraits » il y a une dizaine d'années. Ce livre a eu un écho assez profond et un peu partout. Et au fond, ce sont les. Avec le recul, on s'aperçoit que l'ambiguïté de Pompidou, le fait que ce soit un personnage paradoxal, rempli de contradictions, c'est peut-être finalement ce qui assure la pérennité de son image. Parce que tout le monde peut se retrouver finalement. Les conservateurs l'aiment bien parce qu'il a, voilà, il a incarné une sorte de conservatisme moderne, quoi. Et puis, les gens qui sont plus transgressifs apprécient ce qu'il a fait, notamment au Centre Pompidou, ce que vous avez évoqué. Donc, ça fait ça forme une image, finalement, relativement unanimiste.
Éric Roussel, vous êtes l'auteur d'une biographie de référence de Georges Pompidou, rééditée en poche aux éditions Perrin. Ce président a marqué les esprits car c'était un homme de culture. Il était, je vous cite, « suprêmement cultivé ». Léopold Sédar Senghor a dit de lui « C'est parce qu'il était un grand homme de culture qu'il a été un grand homme d'État ». Comment la littérature, l'art, la poésie ont-ils influencé sa manière d'exercer le pouvoir suprême?
Pour comprendre ça, il faut peut-être évoquer la période qui a précédé son mandat. La période, puisque, au fond, ce qui l'a porté au pouvoir, ce qui a fait qu'il a eu une légitimité, c'est le rôle, à mon avis, qu'il a joué en mai 1968. Et là, à l'issue de ces événements, qui étaient des événements très, très, tout à fait inattendus, il a été l'un des seuls, sinon le seul, à pressentir, finalement, dans ce chaos, qu'il y avait quelque chose c'était quelque chose qui désapprouvait, mais il a senti qu'il ne fallait pas traiter ça, si vous voulez, à la différence d'un certain nombre de ses ministres et même du général de Gaulle qui voyait ça plutôt en termes de maintien de l'ordre. Pompidou a senti qu'il fallait traiter ça d'une autre façon, et c'est ce mélange de fermeté et puis d'ouverture d'esprit qui a fait que, pendant cette crise de mai 68, il a eu un rôle qui a été jugé assez exceptionnel. Il y a une chose qui l'avait beaucoup frappé. Quelque temps avant mai 68, il y avait eu le film de Godard, La Chinoise. Il organisait assez souvent des projections privées à l'Élysée. Il avait invité pour voir ce film un certain nombre d'amis. Tout le monde avait avoué beaucoup de perplexité face à cette œuvre. Et Pompidou ne prétendait pas l'avoir décrypté, mais il avait dit, il y a quelque chose, c'est la préfiguration d'un univers nouveau qu'on ne connaît pas, et ça l'avait beaucoup frappé, et ça l'a sans doute aidé à décrypter les événements de mai 68. Voilà, ça lui donnait des clés de compréhension, si vous voulez, de l'époque. En même temps, il suffit de lire son livre posthume, le Neugordien, on voit qu'il désapprouvait absolument l'évolution de la société qui était issue de tout cela.
Dans les premiers mois de son mandat, je l'ai raconté dans mon récit, Pompidou décide donc la création d'un grand centre d'art contemporain, le Centre Pompidou. À ce propos, vous écrivez qu'à l'époque, on s'étonne qu'un homme si attaché à la tradition dans beaucoup de domaines fasse preuve d'autant de hardiesse en matière culturelle. Donc, ça confirme ce que vous disiez, c'est un homme de paradoxe. Mais il aimait ce paradoxe ou il... C'était plus fort
non,
que lui,
il était
pétri de cela.
Je crois que c'était spontané, c'est comme vous avez évoqué son itinéraire politique.
Oui, voilà, il a été trotskiste assez... dans sa jeunesse.
Moi j'ai le souvenir j'ai rencontré Pierre Mendès-France, c'était l'avant-veille de sa mort, et Pierre Mendès-France m'avait raconté qu'il avait rencontré Pompidou dans sa jeunesse, au sein de cette ligue socialiste, antifasciste, et Pierre Mendès-France m'avait dit, moi j'étais déjà radical, lui il était socialiste, mais un socialiste remonte, c'est pas beaucoup fréquenté, c'était... Donc, oui, il a toujours... Je crois que c'était pas surjoué, je crois que c'était quelque chose qui était naturel chez lui. Alors, pour en revenir au centre, il y a des éléments qui amènent à penser que la réalisation enfin définitive du centre, je ne sais pas si c'était exactement ce qu'il souhaitait. Son idée était de faire quelque chose de moderne, mais qui se serait plus apparenté, vous voyez, au musée d'art moderne de New York. Et puis il s'est trouvé devant un jury qui lui a proposé ce projet. Et lui, qu'on disait, c'est un autre paradoxe, on dit souvent que Pompidou était assez autoritaire, ce qui est la vérité. Et là, il n'a pas fait preuve d'autoritarisme. Mmh. Il s'est aligné finalement sur le jury, avec pour résultat cette œuvre qui jusqu'à aujourd'hui, peut apparaître déconcertante.
Mmh. À travers ce projet, Pompidou entend-il combattre l'inégalité culturelle, en tout cas, et c'était sa volonté de démocratiser la culture. Et selon vous, est-ce qu'il a réussi son pari ?
Oui, je crois que le centre et notamment la bibliothèque et tout ce qui tourne autour du centre de création artistique, etc. Oui, ça, d'une certaine façon, il a réussi, ça c'est vrai. C'est à mettre aussi en prolongement. Ça fait partie de tout le programme qui a été fait aussi sous De Gaulle, avec les maisons de la culture que Malraux avait lancées. Donc c'est un petit peu la suite, finalement, de ça et l'aboutissement. C'est cette idée aussi que l'État doit jouer un rôle, et qui est une idée qui n'est pas une idée, des conservateurs. C'est une idée plutôt... mais tout ça est à remettre dans l'époque.
Pompidou était, dites-vous, un homme de l'écrit. Mais quel était son rapport à la communication ? Il se préoccupait de son image ?
Non, alors ça est un autre paradoxe. Il ne se préoccupait absolument pas de son image. Il y a un texte dans lequel il dit qu'il se préoccupe peu de la trace qu'il va laisser et qu'il veut surtout que son mandat se confonde avec une ère de prospérité, de bonheur, etc. Mais il s'est très très peu occupé de la communication. Il avait... On peut dire que c'est même un homme de la préhistoire de la communication.
Éric Roussel, on va évoquer des aspects plus généraux de la présidence Pompidou, qui s'est achevée il y a aujourd'hui 50 ans, jour pour jour. Il est le successeur du président fondateur de la Ve République, Charles de Gaulle, et dans la biographie de référence que vous lui avez consacrée, vous écrivez qu'il fut un président du même style. C'est-à-dire, quelle continuité a-t-il établi avec le général de Gaulle, et de quelle manière s'en est-il pour autant démarqué ?
Pour comprendre Pompidou, il faut obligatoirement évoquer de Gaulle, parce que vous avez évoqué tout à l'heure son itinéraire, qui est curieux, effectivement, il commence assez à gauche, et puis il y a toute la période qui précède la guerre, durant laquelle il perd ses illusions, il se cherche visiblement, mais n'arrive pas à trouver finalement la voie. Et quand la libération arrive, en 1944, il faut dire que pendant la guerre, il ne s'est pas engagé dans la résistance, ce n'était pas du tout un homme d'aventure. Finalement, De Gaulle, qui se révèle à ce moment-là, et pour lui, il a une sorte d'illumination au sens de Rimbaud. Il découvre, au fond, que De Gaulle est l'homme qu'il attendait, qui incarnait ses espérances. Et grâce à un certain nombre d'amitiés normaliennes, notamment, il réussit à intégrer l'entourage du général et il devient son homme de confiance. Et en même temps, il double des gens qui viennent de Londres, de la résistance. Mmh. Alors ça va créer, ça explique beaucoup de choses après, notamment...
Et il n'est pas élu de terrain.
Voilà, il n'est pas élu de terrain. Mais surtout, il y a ce rapport, si vous voulez, avec les vieux gaullistes, les gaullistes des années de guerre. Et bon, ça c'est une autre affaire, mais ça c'est un arrière-plan de l'affaire Markovitch. Mmh. Parce que ça va créer beaucoup de jalousie à l'intérieur du camp gaulliste. On a oublié tout ça, mais enfin c'est... Mmh. Et alors il a un rapport avec De Gaulle qui est assez curieux. De son côté, il a pensé très profondément, je crois, qu'il avait établi avec le général une relation d'ordre... enfin un peu d'ordre affectif. Or, du côté de De Gaulle... De Gaulle, c'était Richelieu. Il avait pas, un homme d'État n'a pas d'amis. Il avait, ce n'était pas quelqu'un d'inhumain par nature. Mais enfin, voilà. Et donc, quand il y a eu la rupture que vous avez évoquée, parce qu'il y a bien eu une rupture d'abord qui s'est échelonnée dans le temps. D'abord, une différence d'appréciation sur un certain nombre de problèmes, comme l'université, la fameuse participation que le général voulait, que Pompidou ne comprenait pas. Ensuite, la crise de mai 68, là, ça, la différence de méthode et d'approche a éclaté. Et puis, l'affaire Markovitch, etc. Donc, il y a eu vraiment une rupture. Et puis, surtout, la déclaration de Rome en janvier 69, quand Pompidou, alors que le référendum est proposé déjà par De Gaulle, dit officiellement qu'il sera candidat à une élection présidentielle quand elle aura lieu. C'est-à-dire qu'il enlève à De Gaulle un argument massu, c'est-à-dire que l'électorat, disons, modéré, sent qu'après le général, ben, ça ne sera pas le désert, qu'il y aura quelqu'un qui prendra le relais. Donc évidemment, il est évident que ça a joué dans l'échec de De Gaulle. Et ce qui est assez étonnant, et ce qu'on découvre dans les lettres, notes et portraits que j'ai publiés avec son fils, c'est qu'il a vécu cette rupture, la fin de cette relation avec De Gaulle, de façon très douloureuse. Parce qu'il savait, au fond, qu'il devait tout à De Gaulle. S'il n'y avait pas eu De Gaulle...
Il
a tué le père, il en a énormément souffert, parce que c'était quelqu'un Il disait souvent que le général lui disait « Soyez dur, Pompidou ». Il disait « J'ai du mal à assumer cela ». Et c'est pour ça que c'est un personnage aussi qui attire une certaine sympathie, parce que c'est pas un bloc de granit, c'est un homme qui est... Et puis elle renvoie la façon dont il a supporté cette épreuve épouvantable de la maladie.
Mais il y a une autre chose assez étonnante dans son parcours, et qu'on recite souvent, parce que c'est arrivé à un autre président plus récemment, c'est d'être passé par la banque.
Oui.
Et chez les Rothschild.
Oui, ça aurait pu le tuer.
Oui.
Oui, ça aurait pu le tuer. Et au fond, si on réfléchit, à l'époque, il n'y avait que De Gaulle qui pouvait se permettre de nommer directement le directeur de la Banque Rothschild Premier ministre. D'ailleurs, à l'époque, bon, maintenant c'est complètement oublié, mais ça avait suscité un tollé. On avait dit, mais c'est une honte. Et puis, bon, Pompidou, finalement, s'est imposé. On a un peu oublié, pas complètement quand même, parce qu'il a été quand même jusqu'au bout, il a été attaqué sur le fait qu'il était l'homme du grand capital, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais en même temps, il a réussi à apparaître quand même. Ce que dit Senghor est vrai, il avait conservé une sorte de fibre populaire, si vous voulez. Et qui fait que ça fait oublier ce passage, qui n'a pas duré très très longtemps, quand même.
Mais c'est vrai que dans la mémoire collective, Éric Roussel, les années Pompidou évoquent les 30 Glorieuses. Enfin,
la fin des
30 Glorieuses, mais c'est un certain âge d'or.
Oui, c'est un âge d'or.
C'est presque le... la France allait bien, quoi.
La France allait bien, mais il faut que, si on veut voir quel a été le rôle réel de Pompidou, je crois qu'il faut faire une comparaison avec l'étranger. À la même époque, par exemple, l'Angleterre plonge dans une crise sans fond. Donc on peut en conclure, tout simplement, que les choix qui ont été faits par Pompidou n'étaient peut-être pas si mauvais. Mm-hmm. Donc je crois qu'il a deviné qu'il n'y avait que la fin de ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, c'est-à-dire cette période de prospérité exceptionnelle. D'abord, il était très conscient qu'elle ne durerait pas éternellement, et qu'il fallait en profiter pour moderniser la France. Alors, ça s'est accompagné, il y a eu peut-être des erreurs. Par exemple, les banlieues n'ont pas toujours été bien aménagées, il y a eu des... Mais on peut dire que Pompidou, c'est son collaborateur Michel Jobert qui a cette expression qui est très bonne. Il dit, au fond, même s'il ne l'a pas fait absolument consciemment, c'est l'homme qui incarne le mieux ce tournant, cette modernisation de la France, qui était quand même un pays très agricole, d'abord, et puis archaïque, d'un point de vue économique, d'un point de vue... Et puis il y a eu toute cette politique d'aménagement du territoire, entre autres. Alors maintenant, tout ça est très contesté, parce qu'il poussait très loin l'idée de modernité. Par exemple, on lui reprochait, par exemple, l'idée d'adapter Paris à la voiture. Aujourd'hui, évidemment, ça paraît quelque chose...
Et tout le chemin inverse.
Absolument l'inverse. Mais pour comprendre ça, il faut aussi voir que, pratiquement depuis la fin de depuis la Troisième République, si ce n'est le Second Empire, Paris n'avait pas subi de transformation. Il y avait, depuis Haussmann, il y avait eu très très peu de grands travaux. Donc si on n'avait pas fait un certain nombre de... par exemple le périphérique, est-ce qu'on pourrait sans doute plus du tout circuler dans Paris? Bon, alors aujourd'hui, on voit les choses autrement, mais enfin ça, c'est une autre affaire.
Et puis il a une voix à son nom qui... permet
qui persiste,
maintenant,
qui persiste. On a essayé... On a essayé de la débaptiser, et Bertrand Delanoë avait tenu bon, et on lui a conservé son nom.
C'est vrai que les dernières années de la présidence de Georges Pompidou ont été plus délicates. D'abord, il était lui-même confronté à la maladie.
Oui.
Ça se voyait, mais on n'en parlait pas. On parlait d'une mauvaise grippe, je crois, à l'époque. Et sur le plan politique aussi, c'était...
Oui, sur le plan politique, c'est-à-dire que son affaiblissement physique, qui à partir de 72 et surtout 73 était vraiment évident, ça ne l'a pas empêché de conserver une popularité très, très élevée. Mais c'est vrai que la fonction présidentielle était touchée, parce qu'on savait que, on pressentait finalement que son avenir était quand même limité. Et donc ça lui enlevait de l'autorité. C'est une période qui n'aurait pas pu se prolonger très très longtemps. D'ailleurs, Édouard Balladur, qui était le secrétaire général de l'Élysée à l'époque, a publié un livre, La tragédie du pouvoir, dans lequel il évoque toute cette période. Il ne cache pas que c'était extrêmement difficile pour lui, et que dans les dernières semaines, c'était vraiment acrobatique de maintenir le secret autour de cette maladie.
Le 2 avril 1974, l'émission Les dossiers de l'écran est interrompue pour diffuser une annonce qui va changer le cours de l'histoire.
Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce communiqué est signé du professeur Vignalou, le médecin de M. Pompidou.
Cette archive est diffusée dans le film Pompidou, la cruauté du pouvoir, que vous avez écrit pour France 3. À l'annonce de la mort du président, c'est la surprise générale ?
Oui, c'est la surprise générale, et on voit dans le film, on a retrouvé des archives, on voit que au sein de la rédaction, c'est l'affolement complet, à telle enseigne que Léon Zitrone, qui officie, on est réduit à citer pratiquement la notice du Wujou de Pompidou pour évoquer sa carrière. Rien n'avait été préparé. Il y avait d'ailleurs eu des instructions qui avaient été données. Patrice Duhamel, avec lequel j'ai écrit ce film, avec Jean-Pierre Cottet. Patrice Duhamel, qui était jeune journaliste, qui faisait ses débuts, a le souvenir qu'on avait donné des instructions, parce qu'à l'époque, le gouvernement donnait des instructions à la télévision, de ne rien préparer pour, en quelque sorte, conjurer le sort. Quoi. Et c'était si bien, ça a été si bien suivi qu'effectivement, rien n'était prévu.
Pour terminer, Éric Roussel, en juin 1969, alors que Georges Pompidou accède à la présidence de la République, il prononce ces mots. « Les peuples heureux n'ayant pas d'histoire, je souhaiterais que les historiens n'aient pas trop de choses à dire sur mon mandat. » Rétrospectivement, que vous inspire cette phrase, ce souhait exprimé il y a 55 ans ?
Bah, je crois que ça définit surtout le personnage, si vous voulez. C'est quelqu'un qui, c'est peut-être une des clés aussi de l'image qu'il a laissée et qui fait que c'est un personnage attachant. Il n'avait pas un ego surdimensionné. C'était un homme d'autorité, voire assez autoritaire. Mais en tout cas, il n'est pas perçu comme un homme, si vous voulez, qui était tourné vers lui-même, je crois que ça éclaire surtout son personnage.
Mais merci beaucoup Éric Roussel de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Georges Pompidou, le président amateur d'art contemporain. Je rappelle que la biographie de référence que vous lui avez consacrée, Georges Pompidou, est rééditée dans la collection Tempus des éditions Perrin. Je précise également que le film Pompidou, la cruauté du pouvoir, réalisé par Jean-Pierre Cottet et que vous avez coécrit, est disponible sur France.tv. Merci beaucoup.
Merci.
Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.